Bienvenue et merci de nous rejoindre. Voici votre premier rendez-vous de l'année avec l'accent des autres. On se retrouve donc pour les grandes lignes de l'actualité francophone de la semaine. C'est comme d'habitude avec les médias francophones publics, Radio-Canada, France Inter, RFI, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et nous allons entamer cette année sur le mode Covid une nouvelle fois, et d'abord au Canada où l'on assiste à une hausse des cas. Olivier Bachan, la province du Québec met en place un traitement choc pour maîtriser la situation.
Oui, un couvre-feu sera instauré de 20h à 5h et les commerces non essentiels vont demeurer fermés jusqu'au début février.
De nouvelles mesures aussi sur le continent africain, mais Mélitulé, plusieurs pays tentent de s'organiser face à la remontée des cas de Covid-19.
Oui, le Sénégal rétablit un couvre-feu à Dakar et à Thiès. La Côte d'Ivoire, de son côté, annonce le début de la vaccination pour mi-février.
Et à propos de la vaccination, précisément, nous verrons qu'après une phase de test, la campagne a réellement débuté en Belgique, dans les maisons de repos et de soins, Jacques Crémers.
Oui, après les pensionnaires des maisons de retraite, ce sera au tour du personnel des soins de santé. 70% des Belges pourraient être vaccinés d'ici la fin de l'été.
En Suisse, Pierre Anchoffal, la vaccination a aussi démarré trop lentement au goût de certains, mais c'est d'abord la situation épidémiologique qui préoccupe.
La courbe ne baisse toujours pas. Conséquence, la fermeture des restaurants et autres lieux de loisirs sera prolongée jusqu'à fin février et des mesures supplémentaires comme la fermeture des commerces non essentiels sont probables.
Enfin, nous reviendrons sur cette importante restructuration en France. Éric Delvaux, le groupe Michelin veut supprimer 10% de ses effectifs.
Oui, et pourtant, le groupe de pneumatiques a dégagé des résultats positifs en 2020. Alors, il promet des départs non contraints et aucune fermeture d'usine.
On va donc d'abord revenir sur la situation au Canada. Les cas de Covid y sont en hausse depuis le congé de Noël. De nombreux Canadiens se sont réunis avec leur famille élargie, même si c'était interdit dans plusieurs provinces. Olivier, le Québec instaure un couvre-feu comme l'ont déjà fait de nombreux pays.
Oui, un couvre-feu de 20h à 5h qui sera en vigueur jusqu'au 8 février prochain. Il va s'appliquer partout sur le territoire québécois, à l'exception du Grand Nord où la situation sanitaire est meilleure. L'objectif du gouvernement est de limiter les rassemblements illégaux dans les lieux privés. À l'heure actuelle, les Québécois doivent rester en bulle familiale, c'est-à-dire qu'on ne peut inviter des amis ou de la famille élargie chez soi. Cependant, certains outrepassent les règles, ce qui fait grimper les cas de COVID. Alors, le couvre-feu va s'appliquer à tous, mais il y a bien sûr des exceptions. Les travailleurs essentiels du secteur de la santé, par exemple, pourront se déplacer pendant le couvre-feu pour aller travailler ou pour rentrer à la maison. Les employeurs pourront fournir une attestation à ces travailleurs pour prouver qu'ils peuvent circuler pendant le couvre-feu. Ils pourront donc montrer cette attestation aux policiers si jamais ils sont interpellés. Les fautifs s'exposent à des amendes pouvant aller de 1 000 à 6 000 $.
Voilà, amende importante. Donc, cela dit, Olivier, la province annonce aussi des mesures de confinement plus strictes.
Tous les commerces non essentiels sont fermés jusqu'au début février. Bref, les supermarchés, les pharmacies et les stations-service demeurent ouvertes, mais presque tous les autres magasins sont fermés au public. Avec ces mesures, en plus du couvre-feu, le gouvernement espère faire baisser le nombre de cas. Sinon, les hôpitaux vont bientôt atteindre un point de saturation et il faudra choisir qui soigner. On écoute à ce sujet le premier ministre du Québec, François Legault.
C'est pour ça qu'on annonce aujourd'hui un électrochoc, c'est pour, je le répète, sauver des vies, sauver notre système de santé. Donc, on est actuellement, pour le prochain mois, au pire de la bataille. C'est maintenant qu'il faut réduire la contagion.
Contrairement au confinement du printemps dernier, le Québec ne fermera pas ses écoles. Le secteur manufacturier et celui de la construction pourront aussi poursuivre leurs activités avec certaines restrictions. Ça soulève des critiques. Plusieurs se demandent si les mesures du gouvernement seront suffisantes pour maîtriser la situation.
Et puis, de nouvelles mesures annoncées aussi en Suisse. Le taux des nouvelles infections reste à un niveau élevé, avec une moyenne de 5000 nouveaux cas par jour. Et du coup, Pierre-Han, le gouvernement veut prolonger la fermeture des restaurants, mais aussi des lieux de loisirs et de culture.
La décision formelle tombera mercredi prochain, après consultation des cantons, mais on voit mal comment la réouverture le 22 janvier serait possible. La pression sur le système de santé reste forte, car on ne parvient toujours pas à infléchir la courbe. Le nouvel horizon pour retourner au musée, au spectacle ou au restaurant, ce sera donc fin février si tout va bien. Signe du sérieux de la situation, la branche de la restauration ne demande plus de rouvrir sans délai ses établissements, mais bien des indemnisations correctes pour couvrir les frais. Casimir Platzer préside GastroSuisse.
Il faut couvrir ses coûts fixes parce qu'autrement, on va détruire des milliers d'entreprises, on va détruire des centaines de milliers de places de travail et on espère vraiment que jusqu'à mercredi prochain, on trouvera une solution pour indemniser toutes les entreprises qui sont fermées. Ce n'est pas seulement les restaurants, c'est les fitness, c'est les cinémas, toutes ces entreprises qui sont fermées depuis des semaines.
Et de nouvelles mesures comme la fermeture des commerces non essentiels et l'obligation du télétravail partout où c'est possible sont en préparation. La fermeture des écoles, en revanche, n'est pas à l'ordre du jour. L'école à distance a fait trop de dégâts lors de la première vague en mars dernier.
Des mesures plus strictes aussi en Afrique cette fois et notamment au Sénégal. Amélie, après plusieurs alertes face à la seconde vague, les autorités ont décrété cette semaine l'état d'urgence sanitaire dans deux régions du pays.
Oui, depuis mercredi soir, un couvre-feu est de nouveau en vigueur dans les régions de Dakar et Thiès de 21h à 5h du matin. Ces deux régions concentrent à elles seules la grande majorité des cas détectés. Si la mesure a été globalement respectée, il y a eu des mouvements de colère dans plusieurs quartiers de Dakar. Les restrictions touchent durement évidemment les cafés et les restaurants. À ce jour, le Sénégal enregistre moins de 500 décès liés à la Covid depuis le début de la pandémie. Mais les autorités sénégalaises redoutent une saturation des services hospitaliers.
Oui, et parmi les autres pays africains qui constatent aussi une hausse des contaminations, Amélie, il y a la Côte d'Ivoire.
Et le gouvernement ivoirien annonce le lancement de sa campagne de vaccination pour mi-février, plus tôt que ce qui était initialement prévu. Il est demandé au ministère de la Santé d'acheter les doses pour vacciner 100 000 personnes exposées ou vulnérables. À noter aussi, Olivier, le Rwanda qui a décidé cette semaine d'interdire les déplacements entre ses districts et de prolonger le couvre-feu en vigueur de 2 semaines. Kigali dit aussi être en contact avec les laboratoires AstraZeneca et Moderna pour acquérir des doses de vaccins pour la population rwandaise.
Et à propos des vaccins, la campagne de vaccination a donc débuté en Belgique comme prévu dans les maisons de repos pour commencer. Cela dit, Jacques, le personnel soignant réclame lui aussi d'être vacciné sans délai.
Des voix se sont élevées cette semaine du côté des médecins, des infirmiers ou encore des ambulanciers, car en effet, la Belgique a décidé de d'abord vacciner les pensionnaires des maisons de repos, comme le justifie Yvon Anglaire, qui dirige la cellule communication de la Task Force Vaccination.
Nous avons, dès le début de la planification, prévu une priorité pour le personnel, mais c'est vrai, après les maisons de repos, à cause de cette mortalité élevée, mais aussi à cause du fait que les résidents des maisons de repos sont aussi les personnes qui, en grande majorité, ont encombré, entre guillemets, le système hospitalier et mis le personnel sous pression. Donc, en vaccinant les résidents, on participe à cette mise en ordre de notre système hospitalier.
Un système hospitalier qui fait toujours face à un nombre important de personnes infectées. Pour assouplir les mesures actuelles de confinement, il ne faudrait plus que 75 admissions quotidiennes. Si la situation s'améliore, l'objectif ne sera pas atteint avant février.
Oui, les autorités belges qui ont peaufiné cette semaine le plan de vaccination, Jacques, avec un agenda qui s'accélère.
Oui, grâce à l'arrivée prochaine de nouveaux vaccins, mais pas seulement. Il est ainsi aussi prévu d'utiliser la deuxième dose du vaccin Pfizer qui devait être mise de côté pour une seconde injection, ce qui fait que le personnel soignant pourra être vacciné plus tôt, fin janvier, début février. Comme d'autres pays, la Belgique utilise aussi des seringues plus performantes. Leur forme permet d'effectuer 6 vaccinations au lieu de 5, au départ d'un même flacon. Si tout se passe comme annoncé, 70% de la population belge pourrait être vaccinée à la fin de l'été.
Et donc ce sera en principe en septembre prochain. On va revenir un petit instant en Suisse avec vous, Pierre-Han, parce que une polémique a éclaté autour du lancement de la campagne de vaccination. Certains estiment que ça va trop lentement.
Les autorités sanitaires ont dû faire face à un tir croisé provenant à la fois des représentants de l'économie et de certains politiciens. Impréparation du personnel apte à vacciner, pénurie de doses comparée à un État comme Israël qui vaccine à tour de bras, commandes trop tardives aux fabricants et en trop petite quantité. Le gouvernement n'a qu'à relancer des commandes supplémentaires. Bref, on aurait tout faux. Une polémique qui agace le ministre de la Santé, Alain Berset.
Oh, j'ai été stupéfié par ces critiques sur la vaccination. Je vous dis franchement. Alors, j'ai été stupéfié, j'ai pas dit grand chose, mais franchement, ça m'a fait un peu bizarre parce que parmi les mieux placés avec les trois produits qui arrivent le plus vite sur le marché.
Et de rassurer pour la suite des opérations, dès que le vaccin de Moderna complétera celui de Pfizer, eh bien on adoptera un rythme de croisière. D'ici la fin du mois, tous les résidents des maisons de retraite seront vaccinés. Fin février, ce sera le cas des plus de 75 ans. Et fin mars, pour toutes les personnes vulnérables. Quant au reste de la population, ce sera chose faite durant l'été, sur une base volontaire toujours.
Et puis c'est un peu le même topo au Canada, Olivier, puisque le gouvernement fédéral et les provinces sont en désaccord au sujet de la cadence de la vaccination.
Ottawa a livré environ 500 000 doses de vaccins aux provinces qui, elles, sont en charge de les administrer. La moitié de ces doses sont présentement inutilisées par les provinces. Alors, le gouvernement fédéral leur demande de presser le pas. Mais les provinces, elles, rétorquent qu'elles ont besoin d'un plus grand nombre de doses de la part d'Ottawa pour mettre sur pied des opérations de vaccination d'envergure. Plus de 200 000 Canadiens ont été vaccinés jusqu'à présent. Ça représente moins de 1 % des 38 millions d'habitants.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
On va refermer l'accent des autres en France avec une entreprise qui, malgré la crise sanitaire, a dégagé des résultats positifs en 2020, l'an dernier donc. Une entreprise française qui, depuis 2009, a multiplié par 3 le dividende distribué par action. Michelin, le fabricant de pneumatiques, va supprimer jusqu'à 2300 postes en France. Ça représente plus de 10% des effectifs concernés sur les 21 000 salariés du groupe sur le sol français. Un plan sur 3 ans, sans départ contraint, sans départ forcé. Donc, il n'y aura pas de fermeture d'usine non plus. Cela se fera par le biais des pré-retraites et des départs volontaires. Delphine Simon, l'objectif du plan, c'est d'améliorer la compétitivité jusqu'à 5% par an, mais aussi d'anticiper l'avenir.
Le géant mondial du pneumatique fait face à la concurrence venue d'Asie des pneus à bas coût. Pour gagner en compétitivité, Michelin s'allège en emploi. Objectif, supprimer 1 poste sur 10 dans l'Hexagone d'ici 3 ans. Nouvelle coupe sombre après la fermeture de l'usine de La Roche-sur-Yon, de Bamberg en Allemagne et Dundee en Écosse. Paradoxal, selon la CFDT, alors que les usines du groupe tournent à plein régime. Pour la direction, la reprise conjoncturelle est liée au Covid. Il faut préparer l'avenir. Réduire la part du pneu, 95% de l'activité de Michelin, digitaliser les usines et améliorer leur rentabilité. Au mois d'avril, la direction présentera son plan pour 2030. Le géant mondial veut se diversifier vers le pneu haut de gamme à forte valeur ajoutée pour l'aéronautique, mais aussi vers l'impression 3D, le recyclage et la filière hydrogène. Michelin met en avant sa première usine de piles à hydrogène dans le Rhône. À terme, plusieurs centaines de créations d'emplois, selon lui.
Delphine Simon, donc, pour France Inter. Merci à tous. C'était l'accent des autres, comme toutes les semaines, avec RFI, Radio-Canada, la radio-télévision suisse, France Inter et la RTBF. Portez-vous au mieux. Votre rendez-vous avec les médias francophones publics revient la semaine prochaine à la même heure.